L'éthiologie est donc une sagesse très spéciale. Vous voyez, la théologie ne relève pas uniquement de la foi, elle est dépendante, elle implique notre intelligence humaine, notre philosophie, notre métaphysique. Seule la métaphysique de l'être, alors ça, c'est ça qui est le plus difficile à bien comprendre, dans le monde actuel. Or, nous sommes dans le monde actuel. Je dis ça surtout pour les jeunes. Moi, je suis du monde ancien et du monde actuel, parce qu'il faut vivre dans ce monde actuel. Mais ce qui est le plus difficile à comprendre, c'est que seule la métaphysique de l'être et des transcendentaux peut être au service du croyant, de la foi. Tant qu'on n'a pas vu ça, on fait toutes les blagues. On fait des théologies avec n'importe quelle philosophie. Je connais quelqu'un, quand même, je ne dis pas le nom, mais qui est blondélien. Philosophie de Blondel. Alors, la philosophie de Blondel est à base d'un fidéisme. Et qui, quand il a vu l'encyclique du pape, a dit « C'est magnifique, le pape donne raison à Blondel. » Or, si on lit attentivement cette encyclique, le pape montre au contraire qu'il faut une philosophie indépendante de la foi, donc une philosophie de l'être, qui dépend de notre lien avec les réalités que Dieu a créées, directement ou indirectement, mais il y a un monde de pensée philosophique qui n'est pas touché par le péché. Notre intelligence n'a pas été touchée par les conséquences du péché originel. Et donc notre intelligence est encore capable par elle-même d'atteindre la vérité. Elle est encore capable par elle-même de découvrir une philosophie, une métaphysique. Alors que dans le protestantisme, Luther considère que l'intelligence humaine a été touchée par le péché. Et donc, il n'y a plus de philosophie. Il n'y a que la foi, et la foi seule, qui nous permet de parler de Dieu. Et le protestantisme a gagné à l'intérieur du christianisme, du catholicisme, je veux dire, et a fait que beaucoup sont atteints par cela et disent que l'intelligence humaine ne peut atteindre la vérité qu'avec la foi. C'est le fidéisme. On appelle ça le fidéisme. Et je vous avais dit que le Saint-Père, l'avant-dernier, qui était remarquablement intelligent, j'ai assisté à une seule audience de lui. Mais ça, je me souviens, il a dit avec force, le plus grand danger pour l'Église catholique actuellement, c'est le fidéisme. on se réfugie dans la foi pour nous pardonner notre paresse. Ça existe, ça, quelquefois. Les gens qui veulent se dire « Ah, je suis croyant. Dites tout ce que vous voulez, je suis croyant. » Alors, il n'y a plus de contact entre les croyants et les incroyants, puisque l'intelligence a été touchée par le péché. Et c'est au fond quelque chose de très grave, le fidélisme. Parce que ça paraît, en apparence, être plus chrétien que les chrétiens. Vous voyez ? Vous voulez dire, ah, il faut la foi pour tout. Il faut la foi pour la métaphysique. Je ne peux pas faire de métaphysique par l'intelligence. Et c'est au fond, constamment, la fureur qu'ils ont en face d'une métaphysique. Parce que, au fond, ça leur montre que la métaphysique, ils ne l'ont pas faite par paresse. Et ils croient que la foi va tout remplacer. Alors, il faut une théologie à partir de la foi, en se servant, non pas de la métaphysique, bien non pas, en se servant de l'histoire, en se servant de leur connaissance humaine, qui ne peuvent pas être utilisés par la foi pour donner une théologie. Donc il y a là quelque chose de très très important, mais et qui est difficile. Hein. Ça, faut pas, dire que c'est facile. On vit dans un fidéisme. Et les fidéistes sont très têtus. Parce qu'il y a un manque d'intelligence. Donc il n'y a pas de souplesse. Aucune. Et l'encyclique du Saint-Père, à ce point de vue-là, Fides et Ratio, elle est magnifique. Parce que ça, elle montre bien la position de l'Église catholique. Et le Saint-Père, il tient ça. Or, de fait, il faut bien se dire ça, c'est que dans les séminaires, la philosophie qu'on fait la plupart du temps est très peu de choses. Mais si nous donnons une grande place à la philosophie, c'est pour répondre à cette difficulté-là devant laquelle on se trouve aujourd'hui. Ça, je crois que c'est très important. Développer notre métaphysique dans un climat d'intelligence, de recherche pure de l'intelligence, pour être plus au service de la foi. Tandis que si vous ne la développez pas et vous restez dans la paresse, en disant « j'ai la foi, c'est suffisant. Pourquoi la philosophie ? Je crois en Dieu. » C'est aussi gros que ça. Hein. Mais on fait la philosophie pour offrir notre intelligence à Dieu. On offre notre intelligence à Dieu. Et il vaut autant que possible que la bête qui est offerte à Dieu soit grasse. Tandis que si elle est faible, maladive, c'est triste. Alors, l'offrande à Dieu n'est pas un abattoir. On peut tuer les pauvres bêtes, mais on offre à Dieu que des bêtes bien faites. Offrir son intelligence à Dieu, c'est offrir une intelligence bien faite. Puisque notre intelligence venant de Dieu doit retourner à Dieu en étant la plus parfaite possible. Et l'offrande de notre intelligence à Dieu en faisant de la théologie, c'est une offrande magnifique. Chaque fois que vous faites de la théologie, vous offrez votre intelligence à Dieu. Mais pour offrir votre intelligence à Dieu, il faut que mon intelligence se soit engraissée, se soit devenue parfaite, indépendamment de la foi, avec toujours la finalité, j'offre tout à Dieu, c'est sûr. Je travaille ma métaphysique pour Dieu, mais je la travaille en sachant que Dieu m'a donné les moyens de la travailler pour elle-même. Et ne pas tout le temps faire appel à la foi. Autrement dit, tout ce que l'intelligence humaine peut découvrir par elle-même, elle doit le découvrir. Et la foi n'est pas là pour favoriser la paresse. La foi, au contraire, est pour assumer mon intelligence et la mettre au service de la parole de Dieu. C'est le plus grand service. Alors, je crois que ce qu'il y a de mieux pour nous, c'est une lecture très attentive, répétée, de l'encyclique du Saint-Père. En la lisant, au point de départ, il y aura beaucoup de choses que vous ne comprenez pas. Vous les notez, comme quand on lit quelque chose qui nous intéresse. Et puis, vous demandez les explications. Mais il faut que cette encyclique soit pour nous ce qui doit mesurer d'une façon très directe notre manière de faire de la théologie. Pour bien comprendre que la théologie se fait en se servant d'une métaphysique de l'être. Parce que je ne peux pas me servir directement de toutes les connaissances philosophiques, de toutes les connaissances humaines. Je ne peux pas me servir de toute la connaissance historique lié à la foi, elle ne peut pas être immédiatement servante de la foi. Parce que la foi me donne la lumière de l'être parfait, Dieu. C'est directement ce qui éclaire ma foi. Et donc, c'est par la connaissance de l'être que je peux venir expliciter certains points de la foi. Et la théologie n'est pas autre chose que expliciter toute la richesse de la parole de Dieu. Et c'est vraiment ça que doit faire le théologien. Et un jour, je verrai Dieu face à face. Ma théologie, elle m'oriente vers la vision béatifique. Au fond, ni théologique que ce qui est ordonné à la vision béatifique. ne peux pas faire la métaphysique du TGV. Je ne peux pas faire la théologie du TGV. Je ne peux pas faire la métaphysique de la théologie de ce qui est humain. Est uniquement humain. Parce que l'humain n'est pas directement assumable. Ce qui est assumable dans l'humain, c'est justement ce qui est capable d'Ei. Ce qui est capable de Dieu. Ce qui est en puissance obédientielle à l'action de Dieu. Ce que l'intelligence humaine possède, l'intelligence humaine le possède, une conclusion scientifique, mathématique ou des sciences humaines, les conclusions de ces sciences humaines ne sont pas directement assumables par la foi. Et donc ne peuvent pas me servir pour une théologie immédiatement. Ça peut me poser des problèmes. Ah oui, ça oui. Les progrès des sciences humaines, surtout de la science biologique, peuvent me poser des problèmes. Et c'est pour ça qu'on est bien obligé d'être très attentif à ça, pour répondre à ces problèmes des grands savants. On doit y réfléchir, mais on ne peut pas en faire une théologie. Autrement, on ferait une mauvaise apologétique. Parce que l'apologétique, c'est ça. L'apologétique n'est pas la théologie. L'apologétique, c'est se servir de ce que les savants peuvent avoir comme problème. Par exemple, l'évolution. Quand vous voyez ce que disent les savants pris par l'évolution. Je me souviens, moi, je terminais mon noviciat, et en terminant mon noviciat, je suis passé par Paris, où il y avait à ce moment-là une très belle exposition, magnifique, sur l'évolution. Et celui qui avait fait ça, avec beaucoup de chic, et beaucoup d'intelligence. L'évolution commençait par les plus petites bêtes dans l'eau. Hein. Puis ça se terminait, vous sortez, vous aviez une grande glace. C'était le Parisien. Là, oui, c'est bien. Le terme de l'évolution, le Parisien. On ne peut pas aller plus. C'était pas le ciel, mais c'était le Parisien. Et vous avez, et c'était très intéressant d'écouter les réflexions. C'est encore plus intéressant que de regarder l'évolution elle-même. Alors, de voir la manière dont les gens comprennent l'évolution. N'est-ce pas ? Comme si ça expliquait tout. Ça n'explique rien. On constate. Très difficile. On constate. Puis l'évolution n'est pas la création. L'évolution, c'est justement le devenir. Et la création, c'est l'être. Alors, tout à fait différent. Je peux être évolutionniste et accepter la création. C'est sûr. Je peux être, mais l'évolution, vous savez, c'est un passe-partout. Hein. On peut tout expliquer. Et on n'explique rien. On explique quand même quelque chose. On pose des problèmes, hein, c'est déjà beaucoup. Et ça pose beaucoup de problèmes de voir une évolution comme ça. De voir une telle exposition. Bon. Alors, la théologie va se diviser, et c'est ça qui est très particulier, la division de la théologie n'est pas la même que celle de la philosophie. Parce que la philosophie se divise à partir de la réalité. Vous avez les réalités purement physiques, les réalités du vivant, la réalité de l'intelligence humaine. Esse vivere intelligere. La fameuse distinction des néoplatoniciens, qui est très vraie. Vous avez trois choses. Tout ce qui existe, je dois le connaître. Tout ce qui est vivant se distingue de l'essai, parce que le vivant se meut. Et puis, en plus du vivant, il y a la vie de l'intelligence. Donc, esse vivere intelligere. Et toute la théologie, toute la philosophie se distinguera à partir de cela. Vous aurez la philosophie pratique, le facere, l'agire. Et dans la durée, vous aurez la contemplation. Et puis, l'aspect politique. Et vous commencez toujours la philosophie par le point de vue pratique. Il faut commencer sa philosophie en étudiant ce qu'est l'art. Ce que la scolastique n'a pas fait. Alors que c'est très important. La première chose que je connais au point de vue philosophique, c'est le facere. Je suis capable de construire ma maison. L'animal le fait naturellement, parce que la tortue, elle se construit drôlement sa maison, elle est toujours individuelle. Il n'y a rien de plus individualiste que la tortue. Dès qu'elle a peur, elle dit « pont-levis ». Puis elle se tait, elle fait le mort. Puis on peut taper dessus, elle fait le mort. La tortue nous apprend merveilleusement ce que représente l'individu. Il n'y a rien de plus individuel que la tortue. C'est extraordinaire. Alors nous faisons notre facere, nous faisons notre maison. Et c'est autre que nous. Et c'est un gros changement de faire que ma maison, c'est pas ma peau. Tandis que faire que ma peau est de ma maison, très connu comme animal. Ça apprend beaucoup de choses, la tortue. Alors, point de vue philosophique, on commence par le facere, faire sa maison, faire sa demeure, faire sa tente. C'est le facere. Faire une chaise, faire un sabot, et puis aussi cuire du sanglier. Parce que c'est pas commode à manger cru. Alors, le feu apporte quelque chose de très important. Alors, le facere, puis l'agire, agir. La manière dont on fait, puis le point de vue politique. Donc il y a une grande division philosophique, très importante, de ce que l'on fait. Puis après, pas plus loin, l'intelligence a en elle-même et trouve en elle-même sa propre finalité. Je peux connaître pour connaître. Tandis que quand il s'agit de faire, je connais pour fabriquer. C'est une grosse différence. Connaître pour connaître, c'est la connaissance dite spéculative. Et dans la connaissance spéculative, il y a la connaissance de la nature, de toutes les réalités, la nature, la connaissance du vivant et la connaissance métaphysique de l'être, l'intelligence. Dans le vivant, la fine pointe du vivant, c'est l'intelligence. Il n'y a rien de plus vivant que l'intelligence. Et immédiatement à côté de l'intelligence, l'amour. Mais c'est l'intelligence qui est le sommet du vivant. Et vous avez donc là six parties de la philosophie. Je compte le fatuere, l'agire, le politique. Trois. Puis je monte au point de vue spéculatif. J'ai laissé la nature. Le vivere, vivre, le vivant. Et l'intelligence, l'homme. L'intelligence. La métaphysique, c'est étudier l'intelligence en toute sa pureté. Ce que l'intelligence en toute sa pureté peut dire, c'est ça la métaphysique. Et l'intelligence en toute sa pureté est capable de découvrir ceci est. Ceci est un vivant. Ceci est une nature. L'eau. Je peux étudier ce que c'est que l'eau, philosophiquement. Je me souviens très bien, quand j'étais à Fribourg, venait un cher ami du Canada. C'était un Flamand qui était émigré au Canada. Et il était philosophe. C'était son année un peu de détente. Et alors on lui demandait, qu'est-ce que vous étudiez dans votre année? Qu'est-ce que vous étudiez? L'eau. Alors tout le monde regardait, oui, j'étudie l'eau. C'est quand même extraordinaire, l'eau. Il prenait le cantique de ma sœur l'eau. C'est la définition de la sœur, c'est qu'elle est l'eau. Ou c'est la définition de l'eau qui est ma sœur. Là, ça, c'est un langage poétique ou religieux. Mais le philosophe, qu'est-ce que c'est que l'eau? Est-ce que les quatre éléments, la terre, l'eau, l'air, le feu, est-ce que c'est quelque chose que je peux encore me servir aujourd'hui, philosophiquement, avec tout le développement de la science chimique, avec tout le développement de la physique? J'avais fait un séminaire à Fribourg là-dessus, en prenant des spécialistes, chimistes, physiciens, mathématiciens, puis philosophes. Et on s'était posé le problème, mais très loyalement. Peut-on encore dire qu'il y a quatre éléments? Peut-on encore, philosophiquement, sans être en retard, parler de la terre, de l'eau. De l'air et du feu. Et la conclusion avait été, oui, la chimie moderne ne déloge pas du tout les quatre éléments. La physique moderne ne déloge pas du tout les quatre éléments. Les quatre éléments sont quelque chose de radical et de philosophique. C'est très intéressant ça. Et c'est très important. Les éléments du chimiste, les corps du chimiste, ne regardent pas du tout les mêmes choses que les éléments. Voyez donc, la philosophie va impliquer cette partie. Vous jouez à l'orgue, au point de vue philosophique, avec cette partie, toujours. Facere, agere, politique. Et puis, au point de vue spéculatif, la nature, le vivant, l'esprit. Et puis, en dernier lieu, Dieu. L'être premier. J'ai une connaissance naturelle de Dieu. Et supprimer cette connaissance naturelle de Dieu, c'est amputer l'homme. La théologie, comment va-t-elle se préciser et se diviser ? Pas du tout de la même façon. La théologie, elle part de la foi. Elle part de la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans la parole de Dieu ? Dieu qui me parle. Quand vous regardez dans l'Écriture, vous voyez, c'est extraordinairement simple. Abraham dit que Dieu lui a parlé. Et Abraham, n'étant pas un moderne, c'est le cas de le dire, hein, Abraham n'est pas un moderne, il n'explique pas comment Dieu lui a parlé. Tandis qu'il expliquerait que Dieu, soudainement, il était assis, puis il a juste... Non, il n'explique pas, Dieu m'a parlé. Parole de Dieu. Je parle de la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu ? Heureusement que la parole de Dieu définit la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu qui s'est servi d'un instrument, ordinairement, d'un homme, d'un prophète, et lui a parlé. Parce que Dieu peut parler toutes les langues. Et Dieu a parlé en araméen. Dieu a parlé en hébreu. Dieu a parlé en grec. Dieu a parlé en latin. Et Dieu moderne, il parle en toutes les langues. C'est un phénomène de théologie, ça. La parole de Dieu. Mais en toutes les langues. Oh, attention, l'Église me dit qu'avec Saint Jean, la révélation est close. C'est les écrits de Saint Jean qui sont derniers. L'Apocalypse, l'Évangile de Jean, en 94, et puis les épîtres, Les premiers, oh, c'est très délicat ça, les premiers. Quand vous ouvrez la Bible, vous voyez la Genèse. Mais la Genèse, qu'est-ce qui a parlé de la Genèse? On ne sait pas. Il n'y a pas de prophète de la Genèse. Et l'Église considère la Genèse comme un livre révélé. Heureusement que l'Église dit ça. Parce que c'est curieux. Hein? Comment on raconte l'apparition du monde 7 jours. Et les jours n'existaient pas, vous. Il y avait Dieu éternel. Les jours existent à partir de l'homme. Dieu n'a pas créé tout de suite l'homme dans un univers qui n'existait pas. Et donc l'homme était suspendu à Dieu. Il ne savait pas où poser ses pieds. Non, Dieu a créé un monde. Oui, alors c'est curieux, hein, comme la révélation prend des modalités très différentes, des modalités d'un langage symbolique, mais un symbolisme divin. Quand Dieu emploie un symbolisme, il est divin, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose de vrai, quelque chose qui a existé. Quand on raconte la naissance, la création de l'homme, la création de la femme, c'est curieux, c'est très primitif. Je dirais, plus c'est primitif, plus c'est merveilleux. Et c'est vrai, parce qu'il y a des chances que c'est Dieu qui nous montre par là, dans un langage symbolique, une réalité très profonde. Dieu a parlé à l'homme. Dans le premier phénomène. Et l'homme reçoit la parole de Dieu dans la foi. Celui qui n'a pas la foi peut lire l'Écriture, mais il la lit différemment que le croyant. Le croyant lit l'Écriture comme venant de Dieu. La parole de Dieu. Et la parole de Dieu m'a été donnée et s'est révélée à moi d'une façon tout à fait particulière par le mystère de l'incarnation. L'Ancien Testament est entièrement ordonné à l'Annonciation. Et c'est curieux, c'est une femme, Marie, qui reçoit ce message de Dieu, l'Annonciation, être mère de Dieu. Et Dieu a voulu habiter avec nous, parler notre langue, et nous instruire sur Dieu. Alors, il y a des moments différents dans la parole de Dieu. Il y a une richesse extraordinaire de la parole de Dieu. Et le théologien essaie de comprendre toute cette richesse de la parole de Dieu. La parole de Dieu m'enseigne. Il y a un enseignement dans la parole de Dieu. Et c'est cet enseignement que le théologien essaie de saisir. Et la somme théologique de saint Thomas est reconnue par l'Église comme quelque chose de quasi miraculeux. Tellement Thomas d'Aquin nous donne quelque chose d'étonnant. L'intelligibilité de la parole de Dieu. La parole, ordinairement, c'est pour communiquer ce que je connais. la différence de la parole et du cri. La théologie ne part pas des cris de Dieu, mais de la parole de Dieu. Dieu se sert de la parole humaine, comme il s'est servi de la nature humaine. Dieu se sert de cette parole, lui. Et cette parole, elle implique un enseignement. Et c'est ce qu'il y a de merveilleux dans la somme théologique de saint Thomas, c'est que cet enseignement est bien ordonné. Avant saint Thomas, il n'est pas ordonné, mais il est très ordonné. C'est le propre de la sagesse d'ordonner. Et la somme théologique est très ordonnée. Les débutants, les premières années, on vous montrera cet ordre. La seconde année, on est déjà un peu entré dans cet ordre. Mais c'est beau de regarder l'ordre de la somme. Et saint Thomas dit que la somme, c'est quelque chose de fondamental. Quelque chose de premier. Vous voyez, on pourrait dire, hein, faites attention, une analogie, hein, comme la Genèse est le fondement de toute la révélation. C'est pour ça qu'il faut revenir tout le temps à la Genèse. C'est un livre qu'on doit revenir tout le temps. C'est le livre de la famille, de la création. De même, la somme théologique de Thomas, elle est le fondement de toute la théologie. Et on y revient tout le temps. Et si on ne comprend pas ce fondement, on dit très souvent des choses à côté, des bêtises. La somme théologique, c'est la fondation. La fondation de la théologie. C'est fondamental, c'est pas du tout le terme. Non. On y revient tout le temps, les fondations. Quelque chose de solide, très solide. Là, il y a vraiment une grâce de Dieu spéciale, Dieu, et l'Église le reconnaît. Il y a eu une assistance particulière de l'Esprit-Saint pour que saint Thomas joue ce rôle, non pas uniquement à l'égard d'un ordre, les Dominicains, mais pour l'Église. Et l'Église reconnaît que la somme théologique, que l'œuvre de saint Thomas est quelque chose de capital. On ne doit pas étudier saint Thomas en historien, comme si saint Thomas était uniquement pour les cathédrales. Comme si saint Thomas était uniquement pour le Moyen-Âge. Pas du tout. Saint Thomas est pour l'Église. Et donc saint Thomas est encore plus pour notre monde qu'il ne l'a été pour le XIIIe siècle. Parce que c'est une œuvre d'Église. La parole de Dieu n'a pas d'âge. Et la théologie n'a pas d'âge. Ah, la théologie n'a pas d'âge. Attention, la théologie, elle se sert d'un langage humain. Alors, par ce langage humain, par cette pensée humaine, elle est de telle époque. La théologie du XIIIe siècle n'est pas la théologie du XIVe siècle, n'est pas la théologie du XXe siècle. Alors, vous voyez, déjà, ça, c'est quelque chose de très extraordinaire. La foi de Marie et notre foi, c'est la même. La foi n'a pas d'âge, mais la foi a une profondeur et une hauteur. La profondeur de Dieu et la hauteur de Dieu. Elle dépasse tout, au-delà du temps. Ma foi à la parole de Dieu est la même substantiellement que la foi de Thomas d'Aquin en la parole de Dieu. La seule différence, c'est que la foi de saint Thomas allait plus loin. Elle approfondissait davantage. Mais c'est la même substantiellement. Autrement dit, la théologie, elle est la théologie d'une époque. C'est très vrai. Et la théologie est au-delà de toutes les époques, parce qu'elle repose sur la foi. La foi me met en relation directe avec Dieu, par la parole de Dieu. Donc, il y a quelque chose d'éternel. Hein. La théologie est ordonnée à la vision béatifique. Et toutes les paroles de Dieu sont ordonnées à la vision béatifique, sont pour la vision béatifique. Alors, je dois essayer de comprendre cette richesse de la parole de Dieu. Première chose, la parole de Dieu m'éduque. Et ça, c'est le théologien qui essaie d'en voir toute l'intelligibilité spéculative et pratique. La parole de Dieu est au-dessus du pratique et du spéculatif. Elle est divine. Et en Dieu, il n'y a pas de distinction entre le pratique et le spéculatif. C'est divin. Et la parole de Dieu est divine. C'est très important ça. Parce que très souvent, on regarde la parole de Dieu beaucoup trop uniquement en fonction de l'époque où elle était donnée. C'est très juste de regarder la parole de Dieu qui a été donnée à telle époque, mais la parole de Dieu dépasse cette époque parce qu'elle est divine. Donc elle a quelque chose d'éternel. Dans toute parole divine, il y a quelque chose d'éternel. Et c'est ce quelque chose d'éternel que ma foi saisit. Et mon intelligence humaine saisit qu'elle est à telle époque, qu'elle est donnée dans tel contexte. La parole de Dieu est donnée dans des contextes très différents. Et Jésus a eu un contexte historique que je peux étudier humainement. Mais mon étude humaine du contexte dans lequel Jésus a vécu, je peux me tromper, je peux l'approfondir de plus en plus. Et Jésus, qui a vécu dans tel contexte historique, a donné une parole éternelle. Il ne faut jamais oublier ça. C'est que la parole de Dieu a quelque chose d'éternel, hein, divine. Elle n'est pas toute relative au temps. Elle dépasse le temps. Et c'est pour ça que la parole du Christ, Marie l'a portée dans son cœur et je la porte dans mon cœur. Et j'essaie de comprendre dans cette parole divine ce qu'il y a de tout à fait divin. Et ça, c'est le rôle du théologien, hein, de montrer ce qu'il y a d'éternel dans cette parole. Ce qui est temporel et ce qui est... Ce qui est temporel, c'est les études historiques, les études linguistiques, les études des exégètes qui regardent ce qu'il y a de temporel dans cette parole. Mais ce qu'il y a de divin dans cette parole, qu'est-ce qu'il étudie? Le croyant. Qu'est-ce qu'il reçoit? Le croyant. Et il y a toujours les deux. Le croyant doit distinguer ce qui est temporel et ce qui est éternel. La parole de Dieu s'est donnée à travers le temps. Donc je dois étudier cette parole de Dieu à travers le temps. vous voyez bien que là, je n'étudie plus l'intelligibilité de cette parole de Dieu, mais j'étudie cette parole de Dieu en fonction du contexte. Donc l'aspect historique intervient. Mais par rapport à la parole de Dieu, c'est secondaire. Parce que ce qu'il y a de propre à la parole de Dieu, c'est d'être éternel. C'est d'être une parole qui, pour moi, a une intelligibilité divine. C'est ça qui est important. L'aspect historique est très intéressant, mais l'aspect historique ne me fait pas comprendre ce que ma foi atteint. Seule la foi atteint le sucre. Vous savez, Catherine de Sienne, qui n'était pas bête, qui était conduite par l'Esprit Saint, elle parle de la parole de Dieu d'une façon très curieuse, en prenant l'exemple d'une noix. Quand vous cueillez une noix sur le noyer, et que cette noix a sa gangue verte, et qu'on se met à manger directement cette noix à gangue verte, hein, c'est assez... faites expérience. Et vous direz, ah, qu'est-ce que c'est pour la parole de Dieu ? Elle fait une analogie merveilleuse. C'est regarder la parole de Dieu uniquement au point de vue historique. Alors, elle a la gangue verte. Et c'est vrai, ça, c'est, elle dépend de l'histoire, la gangue verte, parce que si vous retardez trop, la noix va tomber. Elle va quitter son écorce verte, et puis elle tombe. Elle a une écorce après dure. Alors, il y a l'écorce verte, il y a la dureté, il y a la plure. Et enfin, ah, ce qu'il y a d'excellent. La noix, le goût de la noix, avec laquelle vous faites de l'huile, et laquelle aussi vous mangez directement. Mais quand vous oubliez d'enlever de la petite gangue, hein, c'est encore très amer. Hein. Et il y a toutes ces épaisseurs-là. Avant de trouver le sucre, l'huile, des vierges sages, l'huile, c'est très important de voir. C'est un exemple très simple, parce que Sainte Catherine parle pour nous tous, un langage très simple pour qu'on comprenne. Mais c'est très juste. Il y a toutes ces épaisseurs. Alors, la parole de Dieu, elle est donnée dans le temps. Vous pouvez étudier l'histoire sainte. Vous pouvez étudier l'histoire sainte de l'Église. L'Église aussi, elle vit dans le temps. Et le Saint-Père a eu un pontificat très différent des autres pontificats, très spécial. Il a voulu tout visiter de l'Église. Parce que l'Église est une dans cette diversité. Et il a voulu maintenir cette unité à travers cette diversité. Et un pontificat très spécial, le Saint-Père. Je ne sais pas où ça se situe. Ça, on le saura quand ce sera terminé. Quand nous aurons terminé notre périple, on verra dans le ciel, tiens, il y a encore combien de papes. Oh Seigneur, que je puisse aller dire aux prières générales qu'on en est au dernier pape et qu'il fasse attention, qu'il vive pleinement ça. Jésus, non, pas la peine, les prophètes sont là, pas la peine, et donc à être intelligent. suis sûr que dans le ciel, il y en a pas mal qui voudraient nous éclairer, dire « Faites attention quand même !» Et je dis « Non, pas du tout, qui vivent dans la foi. La foi leur suffit. La parole de Dieu a une histoire. La parole de Dieu est orientée vers la béatitude. La finalité. Et c'est vrai, Dieu me parle comme un père et non pas comme un professeur. Aujourd'hui, on a tellement le culte des professeurs qu'on croit que c'est ce qu'il y a de plus grand dans la parole de Dieu, son intelligibilité. Mais pas du tout. La parole de Dieu est la parole d'un père qui tout ordonné vers sa finalité. C'est sûr, Dieu nous conduit vers le ciel. Et c'est ça le principal. D'avoir une grosse tête et d'oublier le ciel, hein, une grosse tête dans l'enfer. La parole de Dieu est ordonnée à la vision béatifique. Alors vous voyez bien qu'il y a tout de suite diverses parties de la théologie. Et toutes ces parties de la théologie étudient les parties de la parole de Dieu. Alors j'en ai pris trois, parce que c'est les trois principales. Le devenir, l'intelligibilité et la finalité. Théologie mystique, la finalité. Théologie scientifique, l'intelligibilité. Théologie historique. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes